Ce balado vous est offert par le gouvernement du Québec.
Planter un arbre, c'est croire en l'avenir. Mais face au changement climatique, comment choisir aujourd'hui les essences adaptées pour demain? Comment passer de l'intuition à la prévision scientifique?
Forêt en parler. Le balado de sciences forestières du gouvernement du Québec. Parce que comprendre notre forêt, c'est essentiel.
Bonjour, je suis Samuel Lauzon. Aujourd'hui, on explore comment la science et la modélisation permettent d'anticiper l'habitat futur des arbres du Québec, dans un climat en plein changement. Pour ce faire, j'en parle avec la chercheuse en écologie forestière au ministère des Ressources naturelles et des forêts, Catherine Perrier. Bonjour Catherine.
Bonjour Samuel.
Vous le savez certainement, Catherine, le climat de la Terre a toujours changé. Il y a 100 millions d'années, le Québec était sous une mer d'eau chaude. Il y a environ 15 000 ans, il était enseveli sous des kilomètres de glace. Aujourd'hui, il est couvert de forêts. En sachant ça, pourquoi s'inquiéter des changements climatiques actuels? Qu'est-ce qu'ils ont de différent avec des variations naturelles du passé?
Effectivement, le climat a toujours varié au cours de l'histoire de la Terre. La différence aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle ces changements se produisent. Dans le passé, les variations se sont étalées sur des milliers d'années. Aujourd'hui, ces mêmes changements se produisent en quelques décennies. D'ici la fin du siècle, par exemple, selon le scénario climatique, nos forêts pourraient faire face à une hausse de la température de plus 2 à plus 5 degrés avec des précipitations estivales qui devraient augmenter légèrement, mais surtout avec plus de variabilité et davantage d'épisodes extrêmes.
OK, puis 2 à 5 Celsius de plus, c'est beaucoup? Ça représente quoi exactement? Est-ce que vous avez des exemples là, pour mieux comprendre?
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le réchauffement, les conditions climatiques que nous connaissons aujourd'hui se déplacent progressivement vers le nord. Dans certaines régions, ce déplacement peut atteindre de 5 à 10 km par année. Mmh. Concrètement, cela signifie que le climat change de place. À la fin du siècle, le climat de Montréal pourrait ressembler à celui que connaît New York actuellement.
Okay.
Un autre exemple serait que le climat de Chibougamau pourrait ressembler à celui de la ville de Québec aujourd'hui.
OK, quand même, oui.
Donc, le problème, c'est que les arbres ne se déplacent pas aussi vite. La migration naturelle de la plupart des essences forestières est souvent inférieure à 1 km par an, ce qui signifie que le climat peut se déplacer jusqu'à 10 fois plus vite que ne le font les arbres. Les écosystèmes forestiers disposent donc de beaucoup moins de temps pour s'adapter, et cela soulève des enjeux majeurs pour la biodiversité, la productivité et, par le fait même, la gestion forestière.
OK, ouais, je vois quand même des changements, de grands changements. Justement, avec un climat qui change aussi rapidement, comment les écosystèmes forestiers vont réagir? Est-ce que toutes les espèces d'une même région vont réagir de la même façon?
On observe déjà un déplacement graduel de la forêt boréale vers le nord. On voit aussi des effets sur la croissance et la survie de certaines espèces, notamment avec le lien hydrique, donc le manque d'eau, ou le stress thermique, une température trop élevée. La régénération est souvent l'étape la plus sensible. Les jeunes arbres sont particulièrement vulnérables aux sécheresses et aux extrêmes climatiques. Et surtout, toutes les espèces ne réagissent pas de la même façon. Certaines, adaptées à des climats plus froids et humides, deviennent plus à risque dans certaines régions. D'autres, au contraire, plus tolérantes à la chaleur ou à la sécheresse, peuvent être avantagées. En quelque sorte, le changement climatique agit comme un filtre. Il favorise certaines espèces et en défavorise d'autres. Ce qui fait que progressivement, on assiste à une transformation de la composition des forêts.
OK, oui, je vois. Puis on le sait, hein, en foresterie, les décisions se prennent sur le long terme. Les arbres que l'on favorise aujourd'hui seront encore là pendant plusieurs décennies. Mais comment peut-on aider les aménagistes à prendre des décisions éclairées maintenant pour préparer la forêt de demain alors que le climat est en changement tous les jours, là, maintenant, ça se passe maintenant?
En effet, la foresterie se planifie sur du long terme, de l'ordre du siècle ou 150 ans. Ce qui est certain, c'est que le climat dans lequel évolueront les forêts plantées aujourd'hui sera très différent de celui que nous connaissons actuellement. Pour aider les aménagistes à prendre des décisions éclairées, la science met à leur disposition des outils de modélisation qui permettent d'explorer différents futurs climatiques possibles.
OK, puis est-ce que vous avez des exemples d'outils de modélisation?
Un exemple concret, c'est par exemple l'application web Devenir. Devenir permet de visualiser et de quantifier comment l'habitat climatique des arbres pourrait évoluer selon différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, l'outil permet de voir si les conditions climatiques et environnementales deviendront moins favorables, resteront stables ou deviendront plus favorables à 90 espèces dans le futur.
OK, puis pourquoi 90 espèces? Ce chiffre-là correspond à quoi exactement?
En fait, ce chiffre de 90 correspond aux espèces qui sont déjà présentes dans nos forêts ou qui pourraient le devenir en raison du réchauffement climatique. À ce propos, Samuel, est-ce que tu sais combien d'espèces sont actuellement présentes dans nos forêts?
Bonne question. Je dirais une trentaine.
Mais en réalité, tu sous-estimes un peu. On a 43 espèces qui sont présentes actuellement au Québec, ce qui veut dire que dans le futur, on pourrait en avoir 47 autres pour arriver à 90.
OK, quand même.
Ce que je voudrais préciser aussi, c'est que l'objectif, ce n'est pas de prédire l'avenir avec certitude, mais plutôt d'aider à comparer différentes options afin de réduire les risques associés aux décisions que l'on va prendre aujourd'hui. Donc, l'outil web Devenir, c'est un outil d'aide à la décision qui soutient la mise en œuvre de pratiques d'aménagement forestier plus résilientes face au changement climatique à venir.
OK, puis maintenant, si on essaie d'illustrer ça là, d'une façon plus concrète, là, avec un cas bien réel, par exemple, un propriétaire de boisé privé dans la région de la Capitale-Nationale qui aurait perdu beaucoup de frênes, là, on le sait, là, à cause de la grille du frêne. Concrètement, comment Devenir peut l'aider à choisir les bonnes essences à planter pour l'avenir de sa forêt?
Pour ce propriétaire, l'avantage de Devenir, c'est d'abord de pouvoir se projeter dans le temps. La question n'est pas seulement qu'est-ce qui pousse bien aujourd'hui pour remplacer les frênes, mais plutôt quelles espèces auront encore des conditions climatiques favorables à leur présence dans les prochaines décennies. Concrètement, dans l'application, le propriétaire va pouvoir sélectionner sa région, dans l'exemple c'est la Capitale-Nationale, et voir pour chacune des 90 espèces si les conditions climatiques futures vont demeurer favorables à leur présence ou s'améliorer. Ou devenir moins favorable. Par exemple, il pourra constater que l'érable à sucre, qui est déjà présente dans son paysage, devrait se maintenir dans le futur. Autrement dit, le climat devrait rester propice à la croissance et à la survie de cette espèce, de l'érable à sucre. Mais en même temps, il pourrait aussi envisager de planter du chêne rouge, par exemple.
OK, ouais, je vois.
Le chêne rouge, à ce moment, est à la limite nord de son aire de répartition à Québec, mais avec le réchauffement climatique, les conditions vont lui être de plus en plus favorables. Donc, ça serait peut-être une bonne idée de penser au chêne rouge.
OK.
Devenir ne dicte pas quelle espèce favoriser, mais aide à faire des choix mieux adaptés au climat de demain.
OK, d'accord, mais c'est quand même très impressionnant. Hein? On pourrait pratiquement croire que Devenir, c'est comme une genre de boule de cristal qu'on a entre nos mains. Mais plus sérieusement, là, sur quelle base scientifique reposent les projections de Devenir?
En fait, les projections reposent sur trois grandes sources d'informations. On va d'abord parler des scénarios climatiques qui sont reconnus internationalement, qui décrivent différentes trajectoires possibles d'évolution du climat selon les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, selon comment nous, en tant que société, on va être capable de limiter ou pas nos émissions de CO2 dans l'atmosphère.
Okay.
Donc ça, c'est la première source. La deuxième, ça va être toutes les données sur l'écologie des espèces. Où elles poussent aujourd'hui, dans quelles conditions climatiques et environnementales on les retrouve, quel type de sol, comment elles agissent en compétition les unes avec les autres. Donc, toutes les conditions sur l'écologie des espèces. Et finalement, la troisième, elle est plus abstraite un peu, mais c'est tous les modèles statistiques qui permettent, qui vont être capables de reproduire la présence d'une espèce ou l'absence dans le climat actuel.
Okay.
Autrement dit, ce sont des modèles qui reproduisent bien la réalité d'aujourd'hui quand on va être capable de modéliser correctement la répartition actuelle des espèces. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les données climatiques des modèles actuels par les données futures, puis on va regarder comment ça va influencer la qualité de l'habitat.
OK, on va faire un test, voir si ça reproduit bien, dans le fond, le climat, ce qui se passe aujourd'hui.
C'est exactement ça. En fait, ce que l'on va obtenir, c'est plusieurs scénarios plausibles qui sont basés sur des données observées et des méthodes scientifiques reconnues. Mais je répète encore que l'objectif n'est pas de prédire l'avenir avec certitude, mais plutôt d'explorer différents futurs possibles.
OK, ben justement, en parlant d'un peu d'idées reçues, là, j'aimerais ça faire un petit vrai ou faux pour démystifier quelques idées reçues sur l'application Devenir. Donc, je vais poser rapidement une question, répondez par vrai ou faux. Donc, la première question, Devenir est conçu pour être compris et utilisé par un large public. Il ne s'adresse pas uniquement aux experts.
C'est vrai.
Devenir peut servir autant à la forêt publique qu'à la forêt privée.
C'est vrai.
Avec Devenir, on peut savoir exactement quelles essences seront présentes en 2100.
Faux.
Si, selon Devenir, une essence a des conditions défavorables, elle disparaîtra automatiquement du territoire.
C'est faux. En fait, une espèce peut persister malgré des conditions moins favorables. Mais l'inverse est également vrai, c'est-à-dire que si un habitat devient favorable à raison des changements climatiques, cela ne garantit pas que l'espèce pourra s'y établir.
OK. Notre question, Devenir ne peut pas me renseigner sur une espèce horticole.
C'est vrai.
Okay. Devenir remplace le jugement d'un professionnel, d'un aménagiste.
C'est faux.
Bon, excellent. Ça remet quelques idées reçues en perspective. Maintenant, si on regarde les résultats, quelles sont les grandes tendances qui ressortent des projections faites avec Devenir?
Alors, de façon générale, il faut comprendre que les projections montrent que certaines espèces boréales, qui sont adaptées à des climats froids et humides, pourraient voir leur habitat climatique se réduire. On parle alors de contraction de leur aire de répartition, particulièrement dans le sud du Québec, donc dans la partie la plus méridionale de leur aire de répartition au Québec. C'est le cas, par exemple, de plusieurs résineux boréaux, comme l'épinette noire, l'épinette blanche, le pin gris, le sapin, mais aussi des espèces feuillues parmi les plus boréales. On peut parler par exemple du bouleau à papier. À l'inverse, d'autres espèces qui sont plus thermophiles, donc mieux adaptées à des conditions plus chaudes, pourraient voir une expansion de leur aire de répartition. Ce sont généralement des espèces feuillues qui ne sont pas actuellement présentes au Québec, pour le sud, disons, pour le sud de la province, qui sont dans les autres provinces ou aux États-Unis. Mais il faut aussi garder en tête que ces tendances varient selon les régions et les conditions locales. Encore une fois, l'objectif n'est donc pas d'identifier des espèces à éviter, mais plutôt de repérer où et quand le risque augmente, afin d'adapter les stratégies d'aménagement en conséquence.
OK, puis vous parlez justement de stratégies d'aménagement, puis je me demandais, selon vous, est-ce que le Québec est prêt à affronter les changements climatiques dans sa façon d'aménager la forêt et de produire les plants?
Il est vrai que les changements climatiques vont transformer en profondeur nos forêts, mais le Québec est déjà engagé dans une démarche d'adaptation. On intègre de plus en plus le climat futur dans les décisions d'aménagement forestier et les outils scientifiques comme Devenir sont déjà en place pour soutenir ces réflexions. Cela dit, l'adaptation demeure toutefois un processus en continu. Elle exige des ajustements réguliers et une collaboration étroite entre la recherche, les aménagistes, pardon, et les producteurs de plants.
Une petite dernière question en terminant. Comment vous voyez l'évolution de Devenir là, dans les prochaines années?
En fait, je vois l'évolution de Devenir comme un processus continu d'amélioration en fonction des besoins des utilisateurs. Dans les prochaines années, l'enjeu sera d'assurer une meilleure cohérence entre les différents outils d'aide à la décision. Devenir n'est que l'un d'entre eux. Cela signifie de mieux arrimer les échelles spatiales, les horizons temporels et les scénarios climatiques qui sont utilisés afin que l'information soit plus comparable et plus complémentaire. Pour Devenir proprement dit, certaines améliorations sont aussi envisageables. Par exemple, l'intégration de variables écologiques supplémentaires comme la fertilité des sols qui, pour l'instant, ne sont pas intégrées dans les modèles d'habitat. Cela permettrait d'affiner les projections pour certaines espèces. Une résolution spatiale plus fine permettrait aussi de mieux refléter les réalités locales. Et l'intégration de nouveaux modèles climatiques et des approches statistiques récentes permettrait de maintenir l'outil à la fine pointe des connaissances. En somme, l'objectif, c'est que ces outils deviennent toujours plus cohérents, complémentaires et opérationnels, afin d'appuyer le jugement professionnel face au changement climatique et pour mieux aider à préparer dès aujourd'hui les forêts de demain.
OK, je vois un outil encore mieux adapté aux besoins des gens qui travaillent en forêt. Donc, je vous remercie, Catherine Perrier, pour cette entrevue éclairante et pour cet outil qui nous permet de passer de l'intuition à la prévision scientifique pour en apprendre davantage sur l'application Devenir et sur plusieurs autres sujets de recherche forestière. Je vous invite à suivre le lien dans la description. Vous y trouverez les avis de recherche forestière, une collection de documents vulgarisés qui résume en deux pages les faits saillants des travaux de recherche menés au gouvernement du Québec. Parce que comprendre notre forêt, c'est essentiel.
Pour en savoir plus sur la recherche forestière, visitez le Québec. .ca/recherche-forestière.
Ce balado vous est offert par le gouvernement du Québec.